Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. L'abbé Pierre. Le courage ne crie pas toujours, parfois il est la petite voix qui te chuchote à la fin de la journée. J'essaierai encore demain. Emily Dickinson. Je pourrais continuer longtemps à vous partager des citations inspirantes sur le courage. Si certaines donnent de l'énergie pour agir, d'autres paralysent, donnant l'impression que le courage est réservé aux super-héros. Comment et pourquoi le cultiver au quotidien au travail ? Je vous invite à découvrir les conseils de Jérémy Lamry, entrepreneur et chercheur, co-auteur avec Violette Bouvray du livre « Oser le courage, une valeur nécessaire à la survie des organisations ». Bonjour Jérémy.
Bonjour Fabienne.
Comment vas-tu ?
Très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Alors, on est là, on est réunis pour parler du courage. C'est une notion un peu floue où on ne sait pas forcément de quoi on parle. Est-ce que tu peux commencer par nous définir c'est quoi le courage ?
Alors, le courage, en fait, quand on en parle dans la vie du quotidien, on a l'impression que c'est l'attribut des super-héros et que le courage demande d'avoir un pouvoir particulier ou demande de faire un acte particulier. Et en fait, on se rend compte que le courage, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est le fait de prendre une décision, de mener une action en connaissance des risques pour soi. Donc, on pourra aller un petit peu plus loin après, mais il y a déjà cette notion quand même que soi-même, en fait, on est partie prenante de l'équation et on a quelque chose à perdre. Et quand on dit soi-même, ça peut être soi directement ou des gens qu'on aime.
Par rapport au travail, est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'on manque de courage dans les entreprises, dans les organisations ? Est-ce que c'est une denrée rare ?
Oui.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ?
Oui, le courage, en fait, c'est ce qu'on explique dans l'ouvrage qu'on a écrit avec Violette Bouvray. C'est que le courage peut prendre différentes formes, mais le manque de courage aussi. Parfois, le fait de ne pas prendre le temps d'anticiper les grandes transformations et puis se retrouver quelques années plus tard à faire des plans sociaux massifs parce qu'on n'a pas anticipé, c'est une forme de manque de courage. Au-delà du laxisme, au-delà du manque de responsabilité du dirigeant, il y a aussi un manque de courage d'adresser les sujets quand il faut les adresser. Ça, c'est une première forme de manque de courage. Mais le fait de ne, par exemple, pas dénoncer des actes malveillants quand on les voit, c'est une forme de manque de courage. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde les organisations, la manière dont les décisions sont prises ou ne sont pas prises, et la manière dont on laisse passer certaines choses, on voit par exemple dans plein d'organisations, il y a quelques années, beaucoup de scandales qui éclatent sur du harcèlement sexuel, sur beaucoup de sujets en fait où on se dit « c'est pas possible que ça soit arrivé du jour au lendemain ». Il y a forcément eu à un moment donné de laisser faire pendant des années. Tout ça, c'est des exemples caractéristiques du manque de courage.
Et pourquoi c'est important de réhabiliter le courage aujourd'hui au travail, dans les entreprises ? En quoi ça devrait être une valeur hyper importante au quotidien ?
Alors déjà, le mot que tu utilises, valeur, merci beaucoup, parce qu'on s'est beaucoup posé la question d'est-ce que le courage est une compétence ? Est-ce que le courage est un trait de personnalité ? Et on pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Le courage, c'est avant tout une valeur, parce qu'en fait, la valeur, elle va déterminer la manière dont on fait quelque chose, dont on va d'un point A à un point B. Et finalement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pourraient se dire « je peux aller du point B vers le point B en contournant les règles, en faisant tout un tas de choses, tout ça. » Et parfois, faire les choses courageusement, ça demande en fait de se dire qu'on va aller du point A au point B, pas forcément de la manière dont ça nous arrange. Donc c'est le courage touche à ça. Et quand on va aller chercher un peu les raisons pour lesquelles aujourd'hui on doit rétablir le courage, réhabiliter le courage même, c'est ce qu'on dit dans l'ouvrage, c'est parce qu'on est à une période assez critique, on le voit, les conflits se multiplient dans tous les sens. Avant, on avait une crise tous les 10-20 ans, il fallait gérer cette grosse crise. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on gère une crise par semaine. Et en plus de ça, on a des grands enjeux qui arrivent, c'est-à-dire qu'on voit se profiler des énormes crises, les crises de la migration, les crises sociales, les crises économiques, les crises climatiques, les crises des ressources. On voit se profiler tout un tas de crises pour lesquelles on se dit on ne sera pas du tout armé à temps. Et donc, en fait, si on n'anticipe pas, ça va être encore pire. Ça veut dire quoi ? Être courageux en connaissance des crises qui vont venir, par exemple. On se dit qu'en fait, si là, aujourd'hui, on ne prend pas les bonnes décisions, on aura probablement le futur qu'on mérite.
Tu parlais en ouverture des super-héros. J'ai choisi un extrait d'un TEDx de Elisabeth Grimaud, qui est docteur en psychologie cognitive, qui justement nous explique que le courage n'est peut-être pas réservé aux super-héros.
Pensez-vous qu'Astérix était courageux ? À votre avis, était-il plus courageux qu'un sportif qui tous les jours s'entraîne pour dépasser ses limites ? Était-il plus courageux qu'un entrepreneur qui porte son entreprise et porte ses salariés. Était-il plus courageux que celui qui, organisant un grand événement, décide de réaliser son rêve? Était-il plus courageux que le chercheur qui choisit de ne pas suivre le consensus et proposer un autre paradigme? Des exemples comme celui-ci, comme ceci, il y en a plein. Et il y a les vôtres. Car on a tous un jour eu à soulever, comme Astérix, un menhir. Alors bien sûr, ils n'avaient pas la forme du menhir, mais ils en avaient probablement le poids, un poids psychologique, et peut-être le poids de la peur. Alors pour Astérix, c'était facile, parce que lui, il y avait la potion de Panoramix. Et pour nous, comment faisons-nous?
Et oui, comment faisons-nous, nous? De quelles ressources on dispose pour être courageux?
Alors déjà, j'aimerais revenir sur l'intervention d'Elisabeth, parce que c'est intéressant. C'est quand on parle d'Astérix, en fait, Astérix avec la potion, il n'a pas besoin d'être courageux. Parce qu'Astérix avec la potion, il risque rien. Et donc finalement, quand on risque rien, il n'y a pas vraiment d'acte courageux. Surtout Astérix, il est là pour défendre le village. Donc finalement, quand c'est ton boulot, est-ce qu'on peut parler de courage?
Voilà, très intéressant comme remarque, quand c'est ton boulot, parce que c'est le cas aussi des pompiers, des médecins.
Alors c'est le cas des pompiers, des militaires, c'est-à-dire que c'est évident, quand on regarde ce qu'ils font, on dit ils sont courageux. Et c'est vrai. Mais en fait, quand c'est ton métier, est-ce qu'on peut dire en fait, qu'il faut du courage pour le faire? Ma vision personnelle, c'est que bien sûr, parce que ce sont des métiers en fait, où on est en conscience du risque pour soi. Donc il y a une forme de courage. Mais ça va être un courage finalement pour lequel on a signé. Ce qui peut être différent de beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une vie qu'ils n'ont pas forcément choisie, dans des événements qu'ils n'ont pas forcément choisis, et où là, finalement, les enjeux sont tels qu'ils n'ont pas été préparés pour les affronter. Donc c'est intéressant de regarder le courage de cette manière-là, parce que pour répondre à ta question, bah pour nous, finalement, le courage, ça va aussi être une manière de devoir faire des choix, affronter des événements pour lesquels on n'a pas été préparé.
Et comment on fait justement au quotidien? Est-ce qu'on peut cultiver le courage tous par des actes, en s'entraînant un petit peu tous les jours?
Oui, je pense qu'en fait, il y a du courage dans tout ce qu'on fait au quotidien. Je donne des exemples tout bêtes, en allant jusque des choses un peu plus vertueuses et nobles. Mais par exemple, se lever le matin en se disant « Allez, je vais faire du sport ». Donc, ça commence par là. Le courage de se créer des bonnes habitudes, le courage de se prendre en main. Mais après, c'est aussi le courage de dire la vérité, même quand on a peur de blesser ou quand on a peur de perdre un travail, quelque chose, tout ça. C'est le courage d'être courageux. Et ça, en fait, c'est des petites choses du quotidien parfois, et on a envie dans tout un tas de choses. Mais je pense qu'en termes de quotidien, ça commence par un peu des disciplines personnelles. C'est le début du courage. Quand on est capable de s'astreindre à une forme de discipline, on crée un système de valeurs qui nous rend courageux.
Est-ce que c'est encore plus important pour les managers? On parle de courage managérial. Est-ce que pour être un bon manager, il faut être courageux?
Oui, sans aucun doute. Pourquoi? Parce que les enjeux du management sont de plus en plus compliqués. Dans les organisations qui sont en train de se transformer, on en demande de plus en plus aux managers. Il y a très peu d'entreprises qui sont capables d'accompagner les managers sur le fait qu'aujourd'hui, être manager, c'est différent de ce qu'on faisait avant. Et beaucoup de managers reçoivent le message que c'est plus qu'avant. Il faut faire de plus en plus de choses, et on a l'impression qu'être manager aujourd'hui, il faut être un super-héros quasiment pour l'assumer. Et le rôle de manager a l'air de plus en plus ingrat, de moins en moins bien reconnu, que ce soit par la direction ou que ce soit par les personnes qu'on manage. On a toujours l'impression d'être dans le mauvais rôle si on n'est pas le bon copain. En fait, ça donne une capacité quasiment managériale nulle, parce qu'on est presque poussé à faire des mauvais choix managériaux pour pouvoir avoir l'air d'être un bon manager. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on n'est pas un bon manager.
Quel serait ton message justement pour les managers par rapport à ce courage? C'est compliqué des fois quand le contexte actuel n'est pas facile, qu'on a des mauvaises annonces à faire. Quels seraient tes conseils?
Les cadres. Je pense que tout repose sur les cadres, et pas les cadres au travail. Non, là je parle de poser des cadres. Par exemple, au rugby, on connaît les lignes de touche, on connaît les règles, on sait qu'on ne doit pas faire d'en avant, on sait ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Tout le reste, c'est autorisé. Et je pense en fait qu'un manager de nos jours, c'est aussi quelqu'un qui est capable très vite avec son équipe de poser les cadres, partant du principe que tout le reste est autorisé. Et donc en fait, il faut poser les bons cadres, et les cadres ont bougé. Avant, le cadre, c'était arriver à l'heure. Aujourd'hui, ça a beaucoup moins de sens, et si vous faites arriver des jeunes dans une entreprise, on leur dit c'est 8h, pas 8h01, vous n'allez pas les voir très longtemps dans l'entreprise. Donc, surtout si vous dites 8 heures. Mais il y a de plus en plus d'enjeux comme ça. Et en fait, les managers doivent apprendre à jouer avec le cadre, c'est-à-dire poser des cadres et poser le cadre qui permet de faire évoluer le cadre. On a une règle aussi au rugby, par exemple, c'est sur le match, enfin, si on n'est pas content avec les règles, bah, c'est comme ça. Mais en revanche, il peut y avoir des espaces en dehors où avec la fédération, avec les arbitres, on va essayer de discuter de règles qui sont peut-être mal faites. Et en fait, ça aussi, c'est un cadre à poser. Quand est-ce qu'on peut discuter les règles? Quand est-ce qu'on doit les appliquer?
On parle d'être courageux, mais on parle aussi d'actes courageux. Et tu l'as déjà évoqué, la décision en est un, prendre les bonnes décisions. Donc je voulais te partager un extrait d'un roman qui s'appelle La Décision, de Karine Thuil. Et en fait, elle nous emmène dans le quotidien d'une juge d'instruction antiterroriste. Et c'est un court extrait, et tu me diras ce que tu en penses. On passe des heures avec les mises en examen. Pendant des années, des heures compliquées au cours desquelles on manipule une matière noire dure. À la fin de mon instruction, je dois déterminer si j'ai suffisamment de charges pour que ces individus soient jugés par d'autres. C'est une torture mentale. Est-ce que je prends la bonne décision? Qu'est-ce qu'une bonne décision? Bonne pour qui? Le mise en examen? La société? Ma conscience? Alors, est-ce que se prendre une bonne décision, c'est aussi un acte courageux?
Bonne pour qui? Je pense que Karine Thuil pose vraiment la bonne question. C'est-à-dire un acte courageux, il va servir certains intérêts en desservir d'autres. Et je pense en fait que l'acte courageux en tant que valeur, il doit toujours penser à l'intérêt supérieur. C'est-à-dire ne pas servir un individu, mais servir un objectif, une cause. Et en fait, c'est assez difficile à dire, mais une cause, quelle qu'elle soit.
Au niveau d'une entreprise, au niveau organisationnel, comment on peut essayer d'impulser ça au niveau des RH, au niveau de la direction, pour avoir une entreprise aussi avec cet élan de courage?
L'exemplarité par le haut déjà. Ça commence là et je pense que nos organisations aujourd'hui ont du mal à être courageuses à de nombreux niveaux. On exige du courage en bas de la pyramide parce qu'on exige des gens qui remettent le même effort tous les jours, encore et encore, et quand les gens ne mettent pas cet effort, on leur montre la sortie, on leur fait les remontrances. Mais ça commence par l'exemplarité en haut. Et en haut, en fait, sur beaucoup de sujets, ça peut paraître parfois plus difficile d'être courageux, sur d'autres sujets plus facile, mais ce qu'on voit très souvent, c'est que c'est peu exemplaire.
Et est-ce que y a un lien également pour toi entre le courage et l'authenticité? On parle beaucoup de montrer ses vulnérabilités aujourd'hui au travail, d'être entier, d'être soi. Est-ce que ça aussi, c'est un acte courageux aujourd'hui au travail, en entreprise?
Alors oui, j'aurais pas fait directement le lien entre courage et authenticité, mais être authentique, c'est un acte courageux. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on prend des risques en étant authentique. Parce que parfois, son authenticité va à contre-courant des normes établies. Et là, effectivement, on prend un risque pour soi, on prend un risque social. Et donc, le fait de pouvoir être soi-même, parce que l'authenticité, c'est aussi être soi-même, affirmer sa singularité, c'est un acte courageux.
Si on va un petit peu dans le futur, à ton avis, en 2050, la question du courage, notamment du courage au travail, en entreprise, elle sera comment?
On peut le voir encore une fois pour qui? C'est-à-dire un courage qui sert qui? Du point de vue des individus, le courage en 2040, en 2050, ce sera peut-être de persévérer. Aujourd'hui, persévérer est considéré comme un acte courageux. On regarde il y a encore 50 ans, persévérer c'était juste normal, c'est comme ça que le monde fonctionnait. Aujourd'hui, persévérer, c'est un acte courageux et qui est autant un acte courageux que de partir. Mais partir et abandonner, c'est pas la même chose. Et je pense en fait que dans le monde dans lequel on vient, dans lequel on arrive, on a un sujet autour de la résilience individuelle, de la résilience collective et de la résilience des organisations. Et je pense que l'acte courageux en 2050, ce sera celui qui permet la résilience pour soi ou la résilience pour l'organisation.
Alors la tradition de ce podcast, c'est que chaque invité pose une question à l'invité suivant. Donc tu vas entendre la question de Marielle Barbe qui était venue nous parler des slasheurs.
Et vous? Alors déjà, êtes-vous un slasheur? Et puis, et vous, comment dans votre métier, dans vos activités ou votre activité, si vous êtes un expert, pourriez-vous laisser la place au slashing ou au slasheur?
Je pense que je fais partie de cette génération qui a naturellement été initié à de nombreuses activités professionnelles simultanées, le slashing. Et ça a commencé avec ma vie d'entrepreneur, où en fait j'ai monté une boîte, puis à côté de ça j'intervenais, puis j'ai monté une autre boîte. Et je me suis rendu compte petit à petit que ce qui m'animait, c'était effectivement de pouvoir avoir une diversité, une grande diversité d'activités. Mais il faut faire la différence entre avoir une diversité d'activités et avoir un vrai focus. Et je pense en fait que quand on est un slasher qui a plein d'activités différentes, je ne pense pas en fait qu'on puisse être extrêmement focus. Donc par exemple, là, quand on a monté Tomorrow Theory, il y avait une vraie volonté de se dire « Ok, j'adore l'innovation. Ok, j'adore les ressources humaines. J'adore la technologie. Enfin, en tout cas, j'adore étudier ce que fait les impacts de la technologie. J'aime bien m'intéresser à l'humain. J'aime bien aussi transmettre. Comment, en fait, tout ça, je peux le mettre dans le même concept ? Et je pense que slasher aujourd'hui, ça a peut-être un autre sens parce que c'est créer des activités complexes qui demandent de très nombreuses disciplines. Donc je vais faire une différence entre la pluridisciplinarité et le slashing. Aujourd'hui, le slashing tel qu'on l'envisageait encore il y a 10 ans, pour moi, c'est un défocus.
Quelle serait ta question sur ton sujet à toi, le courage, pour mon prochain invité ?
Comment rendre nos dirigeants courageux ?
Vous avez 3 heures et on récupère la copie à la fin. Merci beaucoup, Jérémy.
Merci, Fabienne.
À bientôt.
À bientôt.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.